Vous écoutez, on lit pour vous.
Briser les tabous sur les menstruations. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 13 mai 2024 dans Le Devoir. Les règles, c'est laid, c'est sale, c'est gênant. Découragé de voir qu'en 2024, les femmes sont encore honteuses de parler de leurs menstruations et de leurs effets, qu'elles ne comprennent d'ailleurs pas toujours, la comédienne Andréane Théberge a décidé de consacrer un documentaire sur le sujet pour faire tomber les tabous. Il y a autant de façons de vivre ces menstruations qu'il y a de femmes. Le problème, c'est que c'est encore un gros tabou. On demande aux femmes de les vivre de leur bord, de souffrir en silence, puis personne n'en parle, fait remarquer la documentariste avec exaspération. En entrevue avec Le Devoir, à quelques jours de la diffusion de sa série documentaire SPM, Splendeur, peine et mystère du cycle menstruel, la comédienne et documentariste était particulièrement fébrile. Il faut dire que cela fait presque 5 ans qu'elle cherche à donner naissance à ce projet, qui a essuyé plusieurs refus de la part de diffuseurs et de producteurs, principalement des productrices. Moi, j'étais super confiante, j'étais persuadée que tout le monde aimerait l'idée. Mais on m'a dit que ce n'était pas intéressant de parler des menstruations des femmes, qu'on n'allait rien apprendre de nouveau, rapporte-t-elle. C'est la diffusion, en 2021, du documentaire « L'automéno » de Véronique Cloutier au sujet de la ménopause et de ses effets largement méconnus qui l'a encouragée à ne pas laisser tomber. Elle a d'ailleurs fini par frapper à la porte des productions KOTV à l'origine de l'automéno et son projet a enfin été accepté. Une histoire bien personnelle. Tout comme la ménopause, les menstruations sont mal documentées et encore taboues, note la documentariste. Pourtant, 100% des femmes vont les avoir dans leur vie, soit 50% de la population. J'ai constaté que nous, les femmes, on ne connaît pas toujours bien notre corps. On ne sait pas quelle douleur ni quelle quantité de sang sont normales ou non, par exemple. Et surtout, on se cache, on reste dans notre souffrance et nos interrogations sans rien dire. Elle, la première. Dans sa vingtaine, Andréane Théberge a arrêté du jour au lendemain d'avoir ses règles, sans savoir pourquoi. À l'époque, son médecin n'y a vu aucun problème. Ses amis enviaient sa chance. C'est vrai que c'était moins de trouble et ça ne me coûtait rien, résume-t-elle. Reste qu'une petite voix dans sa tête lui répétait que ce n'était pas normal. Au bout d'une décennie, sans la moindre trace de sang, elle a fini par l'écouter. Début 2020, en pleine pandémie et avec le luxe du temps, elle a suivi une formation de 3 mois pour l'aider à se reconnecter avec son cycle menstruel. Résultat, non seulement ses menstruations sont revenues rapidement, mais elle a surtout appris des tonnes de choses sur son corps et les menstruations qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. C'est là que l'idée de faire un documentaire décortiquant le cycle menstruel s'est concrétisée. Lever les tabous. Dans les 5 épisodes, on la suit ainsi dans sa quête insatiable de réponses. Elle rencontre médecins, infirmières, scientifiques et autres experts dans le domaine, osant sans honte poser à voix haute les questions que tout le monde se pose en silence. Elle frappe également à la porte de politiciens et de gestionnaires pour discuter des mesures déjà en place et de celles qui devraient l'être, pour faciliter la vie des jeunes filles et des femmes menstruées. Enfin, elle laisse une grande place à la parole des femmes, souhaitant entendre leurs histoires, leurs douleurs et leur rapport à leur menstruation. Elle sonde par ailleurs des élèves de secondaire et des aînés pour mesurer l'évolution de notre société à ce sujet. Sans surprise, on n'avance pas vite. Je pense qu'on aurait pu faire 20 épisodes. Il y a tellement à dire sur le sujet. C'est aussi fascinant de voir à quel point chaque femme a une histoire différente à raconter sur ses règles. Andréane Théberge ne s'en cache pas, elle espère que son documentaire suscitera le même intérêt que l'automéno. Elle souhaite aider les jeunes filles et les femmes dans cette longue phase de leur vie et espère faire tomber les trop nombreux tabous. En ce moment, on a une prise de conscience du problème. Notre génération a maintenant un devoir envers les générations suivantes. Il faut qu'on en parle, qu'on explique, qu'on éduque. Il faut que ça devienne normal de parler de ses règles avec ses amis à l'école, avec sa famille, au souper ou au travail, avec ses collègues. J'espère sincèrement que mon documentaire contribuera à amorcer ce changement, conclut-elle, pleine d'espoir. C'était « Briser les tabous sur les menstruations », un texte d'Annabelle Cailloux, paru le 13 mai 2024 dans Le Devoir.
Le programme de recrutement et de formation d'infirmières de l'étranger est critiqué, un texte de Maura Forêt de la Presse canadienne, paru le 23 août 2024 dans Le Devoir. Un organisme montréalais de défense des droits civiques affirme qu'un programme québécois de recrutement et de formation d'infirmières de l'étranger laisse certains participants dans une situation désespérée. Le Centre de recherche action sur les relations raciales veut que la Commission des droits de la personne du Québec et le gouvernement provincial enquêtent sur le programme de recrutement, alors que certaines infirmières recrutées en Afrique de l'Ouest disent qu'elles se sont retrouvées sans ressources après avoir été expulsées pour avoir échoué à une partie du programme de formation. Elles disent avoir perdu l'accès à leur allocation hebdomadaire et à leur travail à temps partiel comme aide-soignante. Un infirmier qui s'est confié aux journalistes sous couvert d'anonymat par crainte de répercussions professionnelles a soutenu qu'il avait travaillé pendant 10 ans dans son pays d'origine et qu'il avait quitté son emploi pour faire venir sa famille en Montérégie. Après avoir échoué à une partie du programme de formation, il dit maintenant vivre dans la situation la plus précaire depuis des années. « Je ne peux même pas subvenir aux besoins de mes enfants », a-t-il déploré lors d'une conférence de presse à Montréal. « C'est difficile, car j'ai choisi de participer à ce projet. J'avais foi en ce projet et maintenant je me trouve dans une situation désespérée. » En 2022, le gouvernement du Québec a annoncé un programme de 65 millions de dollars pour recruter et former 1 000 infirmières de pays francophones pour travailler dans les régions de la province où il y a une pénurie aiguë de personnel infirmier. Selon les modalités, les personnes candidates reçoivent une formation dans un cégep de leur région désignée, payée par le gouvernement. Elles reçoivent un soutien financier de 500 $ par semaine, en plus de l'argent pour la garderie et le transport, et peuvent également travailler à temps partiel comme aide-soignante. Obstacles bureaucratiques et accusations de discrimination. Mais Faux Niémi, directeur général du Centre de recherche action sur les relations raciales, affirme qu'au moins 50 des recrues ont rencontré des obstacles bureaucratiques ou une discrimination flagrante depuis leur arrivée au Québec. Si elles échouent à un cours, dit-il, elles sont expulsées du programme et perdent l'accès à tout soutien financier et à leur travail à temps partiel. Elles sont dans l'incertitude. Beaucoup d'entre elles doivent compter sur les banques alimentaires pour survivre, et beaucoup d'entre elles sont très, très désespérées, a-t-il déploré. Les candidats expulsés peuvent théoriquement se réinscrire, a expliqué M. Niémi, mais ils sont liés à la région où ils ont commencé leur formation. Si les cégeps de la région n'offrent pas de cours qui commencent avant l'expiration de leur permis d'études, ils risquent d'être expulsés, a-t-il précisé. En attendant, ils ne sont pas autorisés à trouver du travail ailleurs. Ils ne peuvent pas aller dans un autre collège pour continuer leur formation, souligne-t-il. Ils ne peuvent même pas aller chez McDonald's pour faire des hamburgers. Selon lui, les conditions excessivement restrictives du programme ne sont pas pleinement expliquées aux recrues avant qu'elles ne quittent leur pays d'origine, souvent avec leur famille. Un deuxième infirmier présent à la conférence de presse du jeudi 15 août 2024, qui a 5 ans d'expérience en Côte d'Ivoire, a déclaré qu'il faut du temps pour s'habituer au système de santé du Québec. Il y a beaucoup de choses ici au Québec que nous ne savons pas, a-t-il soutenu. Ensuite, quand vous faites une erreur, vous êtes renvoyé. Il a été expulsé du programme dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, mais comme 10 autres candidats qui ont échoué à une partie du programme, il s'est réinscrit. Cependant, M. Niemi a précisé que ce cours n'a pas encore de professeur en place. M. Niemi a indiqué que d'autres recrues ont été victimes de discrimination pendant leur formation, notamment en étant accusées de mauvaise odeur corporelle. Certaines se sont vues offrir du déodorant par leur superviseur d'une manière destinée à les humilier publiquement, a-t-il déclaré. Le ministère de l'Immigration du Québec n'était pas disponible dans l'immédiat pour une entrevue. C'était le programme de recrutement et de formation d'infirmières de l'étranger est critiqué, un texte de Maura Forêt de la presse canadienne, paru le 23 août 2024 dans Le Devoir.
Cinq parcours uniques face à la vie. Un texte d'Isabelle Dubé, paru le 7 septembre 2024 dans la presse. Ambivalent, anxieux ou déterminé, une chose est sûre, ces jeunes veulent tous réussir leur future carrière, mais ils doivent commencer par trouver la bonne. Premier de sa famille à l'université. Fils de parents immigrants, Adrián Almonte Reyes, 20 ans, sent qu'il n'a pas le choix de réussir sa vie. Il le doit à sa mère et à son père, qui ont quitté leurs proches en République dominicaine dans l'espoir de lui offrir une vie meilleure. Adrián sent aussi qu'il doit faire mieux que son frère et sa sœur aînée, qui ont arrêté leurs études à la fin de leur 5e secondaire. Mes parents me disent qu'ils ne veulent pas que je pense comme ça. Ils ne veulent pas que je sente une pression, mais je la sens, raconte-t-il lors d'une rencontre avec la presse à son ancienne école secondaire, Joseph-François Perrault. Je sens que je dois aider mes parents à sortir de la galère. C'est pour ces raisons que même si on lui a répété qu'il ne quitterait jamais sa classe spécialisée d'élèves en difficulté, Adrián a retroussé ses manches et a travaillé sans relâche pour faire mentir ses détracteurs. Tout le monde me disait que je ne réussirais jamais à aller dans une classe au régulier, que c'était impossible de sortir de là, que je ne pouvais pas être dans le CPF, le cheminement particulier de formation, en secondaire 1 et 2, puis entrer en secondaire 3 dans le régulier. J'ai travaillé fort et j'ai demandé de l'aide. Je suis allé à toutes les récupérations et j'ai réussi. Son diplôme d'études secondaires, DES en poche, Adrián s'est inscrit au Cégep en sciences humaines, profil culture et communication. Son plan initial? Se concentrer sur ses études et le soccer. Mais ça n'a pas commencé comme je voulais, relate-t-il. Déjà, je ne me suis pas fait prendre dans l'équipe de soccer. Ensuite, j'ai suivi 7 cours à la première session, c'était trop pour moi. De septembre à décembre, j'ai passé les pires mois de ma vie. Travailler au IGA, jouer au soccer, étudier toute la nuit, mal manger. J'ai fini par faire un burn-out. Adrián a décidé de réduire à 5 le nombre de cours à la session suivante, mais il a échoué certains d'entre eux et s'est fait renvoyer du cégep. Je me sentais mal de le dire à mes parents. Ils s'attendent à ce que j'aille à l'école. Mes parents fondent beaucoup d'espoir en moi. Je suis le premier de la famille à aller au cégep, souligne Adrián, en expliquant que ses parents, son frère et sa sœur, travaillent pour une entreprise d'entretien ménager. Le jeune sportif est bien décidé à rebondir. Actuellement, il s'occupe de l'entretien ménager de son ancienne école secondaire et de la surveillance de locaux. Son nouveau plan? Attendre d'avoir soufflé ses 21 bougies pour s'inscrire à l'université sans passer par le cégep. Comme je me donne à fond dans le soccer et que je travaille ici, à l'école secondaire, que j'aime être avec les jeunes, j'ai pensé que je pourrais être un enseignant d'éducation physique, ou peut-être kinésiologue, vu que j'aime tout ce qui touche au sport, énumère Adriane, qui a encore quelques mois devant lui pour faire ses demandes d'admission dans les universités. Le jeune homme avoue cependant qu'il devra se débarrasser de cette peur qui le hante depuis son passage au cégep. Et si je frappais un mur comme au cégep? Et si je ne comprends pas la matière, j'espère que j'aurai accès à de l'aide à l'université. Adriane est conscient qu'un des secrets de sa réussite réside dans un horaire d'études, de soccer et de travail mieux équilibré. Il est prêt à relever le défi encore une fois et à se dépasser. S'il réalise son rêve de décrocher un diplôme universitaire, le jeune homme sent qu'il aura enfin changé la destinée de sa famille d'immigrants. Des nuits à réfléchir. J'ai passé beaucoup de nuits à réfléchir à ce que je veux faire, raconte Gabrielle Castonguet, 20 ans, lors d'un entretien dans la boutique où elle travaille. Depuis 5 ans, les gens me demandent tout le temps ce que je veux faire plus tard. Je ne sais pas quoi leur répondre parce que la réponse est « je ne sais pas ». C'est stressant et c'est très difficile, poursuit-elle. Il y a tellement de choses que je veux faire. La prise de décision est ardue parce que je dois finir par faire un choix, sinon je n'aurai pas de carrière. La jeune femme a analysé toutes les options. Étourdissant, dit-elle, car il y en a trop. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps où le choix se limitait à infirmière, enseignante ou secrétaire, soulève-t-elle. Cependant, il y a la réalité de la vie d'aujourd'hui, de laquelle il faut tenir compte, ajoute-t-elle. C'est sûr qu'il faut trouver un métier qu'on aime. Ça, c'est le plus important. Mais on doit aussi avoir un travail qui rapporte de l'argent, parce que la vie coûte cher et le prix des maisons monte. On ne peut pas rêver d'être propriétaire avec 30 000 $ par année. Après avoir étudié dans les arts de la scène au secondaire, terminé son cégep en cinéma, Gabrielle s'est inscrite en littérature anglaise à l'Université Concordia. Un programme qui l'a amenée à considérer un autre élément important dans le choix de carrière. Qu'est-ce que je fais avec un bac en littérature? Je peux être écrivaine, bibliothécaire, mais il n'y a pas beaucoup de débouchés. Je constate qu'il y a des programmes superlophones, mais pas de disponibilité d'emploi après les études. Ce n'est pas mieux non plus parce que tu te ramasses sans emploi dans ton domaine. Finalement, Gabrielle a décidé de s'inscrire au programme de communication marketing à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Je l'ai choisi parce que ça me laisse encore du temps pour choisir ma voie, explique la jeune femme. C'est un programme parfait pour ceux qui ne savent pas précisément ce qu'ils veulent parce que ça ouvre beaucoup de portes. J'ai des cours de gestion et des cours créatifs. Ça me plaît et j'ai hâte de commencer. Pour l'avenir, je suis confiante. Tranquillement, pas vite, on finit tous par trouver notre voie. Vous écoutez 5 parcours uniques face à la vie, un texte d'Isabelle Dubé paru le 7 septembre 2024 dans la presse. Un rêve d'enfant qui change. C'est en regardant chaque semaine avec sa mère l'émission de télévision « Vendre ou rénover » que Samuel Flores Serrano a su ce qu'il voulait faire comme métier. Il avait 12 ans. Jusqu'au printemps dernier, son idée était faite. Il serait courtier immobilier comme la co-animatrice Maïka Desnoyers. J'étais passionné par les visites de propriété et les rénovations, raconte le jeune homme de 18 ans à la presse lors d'une rencontre à son école secondaire. On m'a dit récemment que courtier immobilier, c'était vraiment difficile. Il faut que tu te fasses un réseau, soulève le jeune homme qui, après 5 ans à rêver à ce métier, n'était plus sûr du tout de son choix. Je travaille au Tim Hortons actuellement et un client m'a parlé d'un autre métier de cette industrie qui pourrait m'intéresser. Il m'a suggéré estimateur de bâtiments. Ce métier t'amène à faire, par exemple, l'estimation des prix des maisons. Le client m'a dit que c'est ce qu'il avait fait comme travail pendant des années et que c'est le fun. Au terme de cette technique de 3 ans au cégep en technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment, le diplômé peut devenir estimateur en construction ou spécialiste en évaluation immobilière. Certains cégeps offrent la possibilité d'étudier les 2 spécialisations. Samuel est certain que d'estimer les quantités de matériaux nécessaires à la construction d'un bâtiment, de prévoir le nombre d'heures pour le projet et d'évaluer les techniques de construction lui procurera un revenu plus stable que s'il devenait courtier immobilier. Avant d'être accepté dans cette technique, il doit commencer par s'inscrire au tremplin DEC. Mes notes du secondaire sont bonnes, mais je dois faire les cours de sciences enrichis parce que je ne les ai pas faits en ce moment. Mes parents ne me mettent pas de pression sur le choix de métier que je vais faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est que j'aille au cégep et que je termine mes études, conclut-il. Expérimenter pour se connaître. Mon père m'a dit « Tu peux aller étudier dans n'importe quoi, sauf en art. » s'exclame Mackenzie Clarinx, 15 ans, en riant. Lors de son entrée à l'école secondaire, elle s'était justement inscrite dans le profil art plastique. Si son père lui répète cette phrase, c'est parce que la tante de Mackenzie travaille dans ce domaine difficile, mais ô combien attirant pour l'adolescente. Je ne sais pas encore précisément ce que je veux faire comme métier, affirme-t-elle, mais ça ne me stresse pas encore, parce qu'il me reste encore 2 ans de secondaire avant le cégep. Cependant, je sais ce que j'aime, les arts et le design. Je sais aussi qu'une carrière dans les arts, c'est difficile et que ça ne rémunère pas beaucoup. Je ne pourrais pas vivre de ça. Ce qui s'en rapproche le plus, selon moi, c'est l'architecture. Et ce domaine permet de bien gagner sa vie et ça m'intéresse. Je suis toujours intrigué par la conception des bâtiments, de quelle façon l'intérieur a été pensé. Pour l'instant, l'élève est loin d'être fixée. Elle a troqué le profil art plastique contre le volley-ball en 2e secondaire et s'est finalement retrouvée quelques semaines plus tard dans le PEI, le programme d'éducation intermédiaire, anciennement appelé international. Je prends tous les cours qui vont permettre de m'ouvrir toutes les portes, les cours de sciences, les mathématiques les plus fortes, dit Mackenzie Clarinx. Je m'inscris à des activités parascolaires pour découvrir mes goûts et mes intérêts. J'ai essayé la couture. J'ai été prise dans l'équipe de volley-ball de la Rive-Sud, les Lynx. Dès que j'ai un petit intérêt pour quelque chose, je l'essaie. Depuis qu'elle a suivi les cours obligatoires de choix de carrière au printemps dernier, Mackenzie sent qu'elle doit porter une plus grande attention à ce qu'elle aime de façon générale. J'y pense plus, c'est sûr. J'essaie d'analyser ce que je fais et de reconnaître mes compétences. Je sais que je ne veux pas passer mes journées à travailler sur l'ordinateur, assise dans un bureau. Et imagine, tu tombes sur un bureau qui n'a pas de fenêtre. J'ai besoin d'un métier qui me permettra d'être un peu active et dans lequel je vais voir mes résultats. Tu imagines un bâtiment, tu le conçois, et ensuite, une fois construit, tu le vois, conclut-elle. Une 100aine de possibilités. Ayant obtenu la meilleure moyenne générale des élèves du PEI de 4e secondaire de son école, Unaxel Noël, 16 ans, a l'embarras du choix pour sa future carrière. D'entrée de jeu, il précise que la médecine ne l'intéresse pas. Or, le fait d'avoir aussi de bons résultats scolaires lui ouvrent tellement de portes qu'il veut être certain de choisir un programme qui va vraiment lui plaire. Il ne veut pas se tromper et ça devient stressant, dit-il. Je sais aussi que j'ai le potentiel de faire quelque chose d'assez grand. Alors, je me mets de la pression, dit-il, parce que je sais que je peux faire des études plus difficiles, et si je ne les fais pas, je serai déçu de moi. Mes parents, par contre, seront contents, peu importe ce que je choisis. Au cours de la dernière année scolaire, Un-Axel a cherché lequel des programmes de cégep correspondait le plus à ses champs d'intérêt, soit les sciences et les mathématiques. Il avoue que les cours d'éducation au choix de carrière l'ont un peu mélangé car il a découvert de nombreux métiers. On a fait un énorme test de 150 questions sur les métiers et nos valeurs. Ça m'a donné 100 choix de métiers, de l'armée à l'architecture. Les résultats disaient aussi « ingénieur ». C'est bien, parce que j'avais déjà en tête ce métier-là, mais si je le choisis, il va falloir que je trouve le type d'ingénieur que je veux être. En attendant, l'adolescent a la chance d'avoir un emploi d'été qui lui permet d'expérimenter différents types de postes. Depuis 3 ans, il a été cuisinier, serveur, préposé à la billetterie, à la réservation d'événements et matelot sur un bateau. Tous ces postes sont dans l'entreprise de sa famille, Navarc, qui organise des événements, des croisières et offre un service de navette fluviale. Ces expériences m'ont permis de mieux me connaître. Je sais maintenant que j'aime penser à la logistique et préparer des événements. Je suis bon avec le public, mais je préfère être en retrait. Pour l'instant, Un-Axel sait qu'il s'inscrira en sciences de la nature au cégep. Pour l'université, il se dit qu'il a encore 2 ans devant lui pour y penser. Je repousse le moment, mais ça va venir et c'est sûr que ça va devenir stressant et angoissant. Dans mon cas, j'ai la chance d'avoir un plan B, l'entreprise familiale. Je pourrais faire les plans de nos bateaux en devenant architecte naval. C'était 5 parcours uniques face à la vie, un texte d'Isabelle Dubé paru le 7 septembre 2024 dans La Presse.